au plus près de la recherche sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Une question toujours la même nous anime dans cette émission, comment améliorer la vie des personnes handicapées? Et quand je dis vie, je pense concret, comment améliorer concrètement le quotidien des personnes qui vivent avec un handicap? Pour cela, on devrait en tout cas, entre autres, impliquer les personnes handicapées dans la défense de leurs intérêts et améliorer la collecte des données sur le handicap. C'est tout le sens du questionnaire Handifaction mis en place et mis en ligne d'ailleurs par l'association Handidactique, un questionnaire qui propose aux personnes handicapées de préciser comment se passe leur parcours de soins pour pouvoir in fine prendre en compte leurs besoins. Et bienvenue dans Au plus près de la recherche avec aujourd'hui un invité, Pascal Jacob, qui représente l'association Handidactique. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Et puis je le précise tout de suite, en dernière partie d'émission, nous aurons par téléphone Claude Dutch de l'association Advocacy France pour un tout autre sujet. Enfin, tout autre sujet, on parle quand même handicap et recherche. Mais en tout cas, la dernière partie de l'émission sera consacrée à un autre sujet de recherche. Pour ce qui nous anime tout de suite, c'est un questionnaire Handifaction qui a été donc mis en ligne par l'association Handidactique. Et c'est de cela que vous allez nous parler. Pascal, je précise aussi, puisque vous êtes le premier à le préciser, donc je me permets, que vous êtes aussi parent de deux enfants handicapés. Et c'est à ce titre aussi, en tout cas, que vous vous êtes autant investi dans cette de lutte, puisque je pense qu'on peut parler de lutte encore aujourd'hui, même si les choses se sont un petit peu améliorées. Alors, Handifaction, c'est quoi?
Lorsque nous avons fait ensemble et nous avons construit la charte Romain Jacob, qui est un guide pratique des bonnes pratiques de l'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « Mais c'est bien de faire ça, à quoi ça sert de faire une charte ? Et comment ça va se passer sur le terrain ?» Et j'ai eu l'idée, avec les personnes vivant avec un handicap, et après les avoir questionnées, de faire un sondage ouvert à toutes les personnes vivant avec un handicap. Ce sondage est un questionnaire qui est sur Internet, sur handifaction.fr. Et à chaque fois qu'une personne va rencontrer un acteur de soins, il a la possibilité d'y répondre. Et aujourd'hui, nous sommes presque, depuis novembre 2015, à 30 000 répondants. Ce qui fait que nous commençons à avoir un certain nombre d'éléments statistiques qui devient conséquent.
Et du coup, je rebondis sur ce que vous venez de dire, la charte Romain Jacob, qui sert de support à cette recherche, elle a été signée en 2014 par un certain nombre de partenaires, d'institutions, de régions, je crois, et autres. Et est-ce à dire que du coup, effectivement, cette charte, elle sert de support aujourd'hui au questionnaire, mais finalement, elle n'a pas fait profondément changer les choses au sein de ces institutions ?
Et d'abord, la charte a été signée aujourd'hui, en mai 2018, par plus de 2500 organisations, États, et est reconnue comme étant le guide pratique le plus important par l'ensemble du monde du soin. Parce qu'elle permet d'affronter les vrais problèmes que peuvent rencontrer les personnes vivant avec un handicap. Aujourd'hui, Handifaction nous permet, avec le nombre de répondants, environ 2000 à 2500 pour 2 mois, de sortir des résultats. Nous venons, à la minute même, d'avoir les résultats du 15 mai, ce matin. Et je vais essayer de vous dire ce que nous avons ressenti en regardant ces résultats.
Alors peut-être avant de parler des résultats, un mot sur l'étude pratique en ligne. Elle est assez courte, elle est accessible à tous et à toutes, enfin en tout cas à toutes les personnes vivant avec un handicap. C'est assez rapide à remplir, hein, je crois qu'il y a 3-4 pages, c'est assez sommaire, on va dire, mais assez précis dans les questions. Et c'est des questions qui se rapportent au parcours de soins, si on a été
voilà. Visité. Alors, vous avez parfaitement raison. Il faut parler du questionnaire. C'est un questionnaire qui a été fait avec les personnes vivant avec un handicap, dans un langage facile à comprendre et avec la capacité pour eux d'utiliser ce questionnaire, d'avancer, de reculer et de rendre extrêmement pratique et facile pour eux. Ceux qui n'ont pas accès à cette information peuvent utiliser leurs aidants ou leurs accompagnants pour répondre à leurs demandes, à ces questions. Aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir que certaines régions qui sont particulièrement intéressées, je pense à l'Aquitaine, je pense aux résultats spectaculaires du nombre de répondants du Grand Nord et de l'Île-de-France, il y a encore des régions qui ne sont pas encore très sensibilisées à ce questionnaire. Mais la majeure partie des régions aujourd'hui répondent et donnent des résultats suffisants pour être capables de transmettre aux ARS tous les 2 mois leurs propres résultats.
Voilà, c'est un questionnaire dont on invite les personnes à retourner dessus tous les 2 mois si elles ont eu une visite en hôpital ou en tout cas un événement dans le parcours de soins. Et en tout cas, c'est un questionnaire sur lequel il faut revenir. C'est pas, on ne le remplit pas une fois et puis après plus jamais. C'est,
on l'intérêt, répond c'est aussi d'avoir un à suivi. Notre demande à chaque fois que l'on rencontre un acteur de soins. Si c'est pour une séance de rééducation à la maison, si c'est pour une visite à l'hôpital, si c'est face à un refus de soins, si c'est face à aller se faire soigner les dents dans une maison de santé, à chaque fois que l'on y va, on peut répondre et ce questionnaire sera accepté.
Et on répond à des questions très précises sur, voilà, quand vous y avez été, est-ce que vous avez eu un accompagnement? Est-ce que vous avez posé des questions? Est-ce qu'on vous a répondu? Voilà, c'est des questions
Ce sont assez des questions précises. Extrêmement pratiques qui ont été préparées et mis en place dans le questionnaire par les personnes elles-mêmes. Et vous allez voir, c'est leur langage.
Et le but, du coup, quand... Et vous allez nous parler des résultats dans un instant, mais le but de tout ça, hein, j'insiste là-dessus, c'est, on veut savoir, dans ce parcours de soins, dans ces parcours de soins que vivent les personnes avec un handicap, eh bien, quel est leur degré de satisfaction, leur degré de comment elles perçoivent, en tout cas, la façon dont elles ont été accueillies, soignées. Et c'est ça que vous voulez savoir in fine. On veut savoir si ça a dans
Exactement.
Le bon sens.
Exactement. Il s'agit aujourd'hui de donner des résultats de leur pensée et du concret de ce qui s'est passé dans leur rapport dans l'accès aux soins. Exemple. Première question, qui a été d'ailleurs demandée par le Conseil national de l'Ordre des médecins, avez-vous, au cours des 2 derniers mois, fait l'objet d'un refus de soins? Eh bien, il est regrettable aujourd'hui de s'apercevoir que 16% des personnes qui ont répondu à ce questionnaire nous déclarent avoir fait l'objet d'un refus de soins. Eh bien, aujourd'hui, 16% tous les 2 mois, c'est très lourd. Et où vont ces personnes lorsqu'elles ont eu l'objet, elles ont fait l'objet d'un refus de soins? Eh bien, elles n'ont que comme seul recours d'aller aux urgences et d'attendre leur tour.
Et d'attendre longuement. Alors, justement, les urgences, je crois qu'il y a une question là-dessus aussi. Il y a le temps moyen d'attente aux urgences, de mémoire, je crois avoir lu dans des résultats qui ne sont pas aussi complets que les vôtres, mais que c'était environ 4 heures qu'il y avait une moyenne à peu près dans ces eaux-là. Mais moi, ce qui m'est venu...
Je peux vous donner, simplement, puisque vous abordez le sujet de l'attente, mais qui aurait été l'objet d'une réponse tout à l'heure, simplement pour vous dire qu'une personne lambda qui va aux urgences attend en moyenne 2 heures.
Voilà, mais ça allait être ma question. J'allais dire, est-ce qu'on peut mettre ça en parallèle avec la personne du milieu ordinaire?
Une personne vivant avec un handicap attend en moyenne 4 heures. Et une personne vivant avec un handicap de plus de 45 ans attend en moyenne 9 heures.
9 heures, ça commence à faire. Mais alors, parce qu'il y a des résultats, comment on peut les analyser si on n'a pas finalement plus d'informations sur le pourquoi de l'attente? Parce que, de mémoire, là encore, dans l'étude, on peut dire qu'on a attendu tant de temps aux urgences. mais on ne précise pas peut-être pourquoi, comment, qu'est-ce qui peut expliquer cette différence.
Alors, il faut comprendre que notre étude est séparée en trois parties. Une étude générale, tout lieu de soins, une étude hôpital et une étude urgence. Ce qui nous permet d'isoler et de voir ce qui se passe dans chacun. Ce qui est possible, c'est par exemple de faire l'étude sur les maisons de santé, de faire l'étude sur les généralistes, de faire l'étude sur les spécialistes. Donc nous avons aujourd'hui suffisamment de répondants pour être capables de produire des résultats de satisfaction de la personne vivant avec un handicap, quel que soit le lieu où elle va. Alors, maintenant vous me demandez comment et à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on en fait, en fait. Ben, il y a une première chose qui est très intéressante. Prenons simplement le refus de soins. Lorsque une personne déclare avoir eu un refus de soins, la première chose qu'elle fait, c'est d'aller aux urgences. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une personne vivant avec un handicap, dans 99,9% des cas qui subit un refus de soins, va aller au service d'urgence là où ce n'est pas strictement nécessaire. Lorsque le refus de soins est fait par un généraliste, ou par un spécialiste, ou par une maison de santé, il est regrettable qu'elle aille passer 4, voire 6 ou 8 heures dans un service d'urgence qui ne le connaît pas. Et ça, c'est très dommage. Et alors, vous voyez, on s'aperçoit d'un côté qu'il y a un refus de soins, de l'autre côté, que cet effet de refus de soins embolise complètement le service d'urgence. Et il l'embolise d'une manière difficile, car le temps qu'il est nécessaire de faire pour soigner une personne vivant avec un handicap, ben, il est entre 2, voire 5 fois plus long que celui d'une personne valide qui est capable de s'exprimer. Donc, lorsque l'on a pratiquement 30% de l'activité d'un service d'urgence qui est avec des personnes vivant un handicap, qui arrivent très souvent très mécontents, puisqu'ils ont fait l'objet d'un refus de soins, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et c'est là où on s'aperçoit que l'accès aux soins ne va pas être résolu par l'hôpital, par les urgences, ne va pas être résolu par le médico-social, ne va pas être résolu par la médecine de ville, mais par tout le monde ensemble. Aujourd'hui, il faut qu'on organise l'accès aux soins, et c'est d'ailleurs une des parts du travail qui est en train d'être fait par Philippe de Normandie dans le nouveau rapport qu'il doit produire avant l'été sur l'accès aux soins des personnes et les blocages que l'on découvre. Il se sert bien évidemment de l'étude en diffraction pour être capable de comprendre, mais on a dans cette étude des éléments flagrants de difficultés directement liés à des dysfonctionnements de l'un ou de l'autre des acteurs.
Au plus près de la recherche sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Et de retour, toujours avec Pascal Jacob qui représente l'association Handidactique et nous parlons de Handifaction, un questionnaire de satisfaction justement sur le parcours de soins des personnes qui vivent avec un handicap. On le voit avec vous, Pascal, c'est compliqué l'accès aux soins quand on est une personne vivant avec un handicap. C'est plus compliqué, en tout cas, que quand on vient du milieu ordinaire. Une question tout de même à propos de la personne vivant avec un handicap. Le champ du handicap, les handicaps sont tellement vastes, tellement larges, il y a un spectre immense. Est-ce que ça reste pertinent de parler de problématiques qui concernent tous les handicaps? Vous me disiez à l'instant que... en parlant de ces personnes handicapées, c'était important, par exemple, qu'elles puissent s'exprimer quand elles vont aux urgences ou chez le médecin. De fait, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec handicap qui s'expriment parfaitement comme vous et moi, on va dire, même si je ne sais pas si on s'exprime suffisamment bien. Mais est-ce que, là encore, dans les personnes interrogées, est-ce qu'on peut tirer un résultat global intéressant pour l'ensemble des personnes handicapées ?
Il est évident qu'aujourd'hui, dès lors où on met l'étiquette « personne handicapée », que je n'aime pas, puisque je préfère dire « personne vivant avec un handicap », on a une réaction extrêmement négative de beaucoup d'acteurs de soins. Parce que, un, c'est plus long, deux, c'est plus compliqué, et trois, ça impose un certain nombre de directives qui ont déjà été données par la loi, mais qui ne sont pas pour autant respectées. Regardez simplement les résultats de qui aujourd'hui fait des refus de soins. La première personne, le premier acteur de soins, c'est le spécialiste. Ça représente un gros tiers des refus de soins. Le deuxième, et c'est dommage, puisque c'est justement là où on devrait ne pas avoir de refus de soins, c'est l'hospitalisation à domicile. Et c'est le troisième, c'est le lieu où vivent les personnes en dehors du monde ordinaire, c'est-à-dire dans les établissements. Pour plus de 12%, le refus de soins se fait aussi dans les établissements médico-sociaux. Ce que je veux dire simplement, quand on revoit ces trois niveaux-là, on veut se dire que on comprend que 70% des personnes qui vivent avec un handicap abandonnent, en tant qu'adultes, abandonnent tout ou partie de leurs soins. Parce que c'est une galère de se retrouver. Et ça, c'est pas possible. Alors, on peut essayer de regarder quelques résultats importants, de savoir où se passe l'accès aux soins des personnes. Une personne handicapée fréquente, grosso modo, pour ses soins, à 35% l'hôpital. C'est énorme et c'est 2,5 fois plus qu'une personne vivant dans le monde ordinaire. La deuxième chose, c'est que le deuxième lieu de soins est le domicile, parce qu'il y a un effort considérable de la part des généralistes et des acteurs de soins du paramédicaux, comme la rééducation, la kinésithérapie, qui vont à domicile et qui font un travail absolument remarquable. Il reste néanmoins que en ville, le généraliste ne représente que à peine 14% et que le médico-social, dans lequel il y a 15% des personnes vivant avec un handicap, ce n'est que 11%. Ce qui est aujourd'hui les éléments qui nous frappent beaucoup, c'est deux chiffres. Aujourd'hui, le soin lié à l'handicap et la rééducation représentent 30% du besoin d'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap. Ces chiffres-là sont très importants. Mais est-ce que l'hôpital, aujourd'hui, qui est le plus lieu le plus important de fréquentation, est aujourd'hui formé pour accueillir et accompagner ces personnes dans leurs demandes, et ça, ce n'est pas encore fait. Et c'est la raison pour laquelle nous allons signer le 22 mai à Reims la charte Romain Jacob de la formation des acteurs de soins au handicap. Et le 22 juin, sous l'égide du président de la République, nous allons signer cette charte qui va être une charte des bonnes pratiques de soins pour, et surtout les bonnes pratiques de formation.
Alors, au-delà de la charte, parce que j'ai encore une charte, deux choses. Est-ce que ça a été une surprise pour vous, ces résultats? Ça fait 3 ans que l'étude a démarré, Handifaction a démarré en 2015, hein, je crois. Donc, au fur et à mesure, vous avez eu des résultats partiels, en tout cas. Donc, est-ce que c'est une surprise aujourd'hui, les chiffres que vous nous présentez? Et la deuxième chose, derrière la prochaine charte, quid des actions? Vous parliez tout à l'heure de réorganiser ce parcours d'accès aux soins qui est un peu un parcours du combattant pour les personnes vivant avec handicap. Donc, qu'est-ce que concrètement vous allez attendre des pouvoirs publics et de la ministre que vous rencontrez prochainement et à qui vous allez présenter ces résultats?
Alors, d'abord, j'ai été surpris d'un certain nombre de faits, comme le refus de soins, comme le demandait d'ailleurs le Conseil national de l'Ordre des médecins. Ça, c'était le premier élément. Le refus de soins a été pour moi un signe très dangereux. Le deuxième point, c'est de voir que nous avons du mal à progresser. Et la raison que nous invoque l'ensemble des acteurs de soins, c'est de ne pas avoir été formés. C'est pour ça que nous avons lancé ces travaux. Et la troisième chose, c'est que économiquement, aujourd'hui, nous sommes dans un appareil administratif et institutionnelle qui fait que les règles ne sont pas adaptées, les règles économiques comme les règles d'accueil ne sont pas adaptées au monde du handicap. Alors, il faut faire évoluer ça, et ça c'est beaucoup plus lent, parce qu'il faut aider les acteurs de soins à être capables de répondre aux attentes de ces personnes. Je vous donne deux cas. Un cas très important, c'est avez-vous eu besoin d'être accompagné? Et la personne répond dans 70% des cas qu'elle a besoin d'être accompagnée. Mais là, on entend encore que 25% de ces personnes se sont vues refuser l'accompagnement dans leur acte de soins. Et ça, c'est pourtant la loi l'interdit. Interdit à tout acteur de soins de refuser l'accompagnement de cette personne. Le deuxième élément qui est encore plus lourd et qui a des conséquences importantes et qui empêche la personne vivant avec un handicap d'être acteur de sa santé, c'est que, grosso modo, la moitié des personnes déclarent poser des questions. Et on s'aperçoit que seulement une personne sur deux à des réponses, et que dans les non-réponses, il y en a 26% qui disent ne pas du tout avoir eu de réponse, parce qu'on ne leur a rien dit, et la deuxième, pour 24%, c'est « j'ai pas compris la réponse et on n'a pas fait l'effort de leur expliquer ».
Et là encore, peut-être en parallèle avec le milieu ordinaire, parce que ça fait donc 50% des gens finalement qui ressortent sans les réponses aux questions qu'ils avaient. Est-ce qu'on ne retrouve
pas
ça aussi dans...
aujourd'hui les données du monde ordinaire dans ça. Parce qu'il n'y a pas d'évaluation de ce système. Nous avons la chance de l'avoir maintenant pour la personne vivant avec un handicap. Mais j'aimerais que l'État se lance dans cette étude de satisfaction que l'on retrouve dans nombreux pays anglo-saxons comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme le Danemark, comme la Suède ou comme l'Angleterre.
Parce que c'est vrai que souvent, ça va de pair. C'est-à-dire que si on améliore le parcours de soins des uns, souvent, ça va améliorer celui des autres, entre guillemets. C'est-à-dire que, effectivement, si c'est mieux pour la personne avec un handicap, la personne qui n'en a pas, ça va aussi lui permettre, elle, d'avoir un meilleur accès aux soins.
Il y a deux autres effets qu'il faut absolument évoquer, parce que nous avons besoin de comprendre ce que peut attendre une personne vivant avec un handicap. La première question, avez-vous eu le sentiment d'avoir été soigné? J'ai le regret de vous dire que lorsqu'ils sont enfin arrivés à un accès aux soins, il y en a un tiers qui déclare « j'ai le sentiment de ne pas avoir été soigné ». Et je vais vous dire, c'est aussi une galère, parce que pourquoi y retourner? Pourquoi retourner se faire soigner si on n'a pas eu le sentiment d'avoir été soigné? Et puis, il y a une chose encore plus concrète. Est-ce que l'on a tenu compte de votre douleur? Et là, nous sommes dans une réponse qui m'a considérablement étonné et qui a été demandée par les acteurs de soins dans la questionnement. Et 84% des personnes vivant avec un handicap ont déclaré qu'on n'a pas tenu compte de leur douleur.
Mais là, je crois qu'on est de toute façon très en retard sur la gestion de la douleur, effectivement, dans l'ensemble en France. Le temps passe, il nous reste 2 minutes. Comment, concrètement, on redonne espoir aux personnes qu'on invite à aller remplir le questionnaire handifaction? On veut que les choses avancent, on veut que concrètement ça change. Quel espoir on a à court et moyen terme? Qu'est-ce qui va finalement bouger le plus probablement, on va dire?
Alors, je voudrais vous répondre très sincèrement. C'est le travail de répondants qui va nous permettre d'avancer. D'abord parce qu'ils commencent à titiller de manière assez lourde du haut en bas de la chaîne du président de la République jusqu'à l'aide-soignant. Je dois vous dire aussi que l'effort qui est fait par les 30 000 personnes qui ont répondu au questionnaire commence à porter ses fruits. Nous voyons des progrès et nous sommes capables de dire « là, il y a un effort à faire, là, il y a un effort à faire ». Nous avons aussi à mettre en place une éducation et une formation de ces acteurs de soins qui en sont très demandeurs. La première, elle a été de ne pas rencontrer le handicap au moment où l'urgence l'impose, mais d'en prendre connaissance. Ça a été le premier point. Et depuis maintenant 2 ans, nous avons mis en place, comme le stage infirmier, pour un certain nombre d'universités de médecine, des stages qui permettent aux personnes d'aller vivre pendant une semaine dans un milieu de vie des personnes vivant avec un handicap. Cet élément-là donne des résultats extraordinaires. Deuxième point.
Alors, très rapidement.
Très rapidement. Je voudrais dire que le deuxième élément, on a fait en 2005, à très fort coût, un module handicap pour enseigner le handicap aux acteurs de soins. Personne n'y allait. Eh bien, vous savez ce qu'on a fait. On a imposé dans tous les examens de soins, d'écoles de soins, de la médecine, et quelle qu'elle soit, des questions. Eh bien, cette année, dans l'internat, il y a un nombre conséquent de questions qui touchent à l'handicap. Eh bien, on n'a pas rendu obligatoire la formation, mais si on veut avoir un bon rang à l'internat, on a intérêt à apprendre ce que c'est.
Voilà, c'est concret et ça fait avancer les choses. En tout cas, toutes les infos sont disponibles sur handifaction.fr pour remplir
handidactique.
Sur handidactique.org, les informations, mais handifaction.fr pour remplir directement les questionnaires, inviter les gens que vous connaissez et qui sont concernés par des problématiques de handicap à aller sur handifaction.fr. Merci beaucoup Pascal Jacob, et je cite juste avant de vous quitter la référence de votre livre « Liberté, égalité, autonomie, handicap pour en finir avec l'exclusion », c'est aux éditions du NOD. Voilà un livre sur l'inclusion et l'autonomie aussi des personnes vivant avec handicap. Merci beaucoup.
Au plus près de la recherche sur Vivre FM, Blandine Lacour.
De retour dans Au plus près de la recherche, mais changement de sujet, puisque nous accueillons maintenant par téléphone Claude Dutch, qui est de l'association Advocacy France et qui organise un séminaire le 20 juin à Paris pour présenter une recherche menée par des usagers en santé mentale. Une recherche qui a porté sur la disqualification de leurs paroles, une recherche soutenue évidemment par la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap, et une recherche qui a d'autres partenaires, d'ailleurs on les citera peut-être après, et qui a été menée en tout cas par Advocacy France en partenariat avec l'APAF, l'Association pour l'aide au handicap, au sein du ministère des Finances. Claude, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous par téléphone depuis la Normandie, je crois.
Et non, la Bretagne.
À la Bretagne, moi j'étais pas loin. Et sur quoi portait exactement cette recherche menée par des usagers en santé mentale? Ce qui vous a fait d'ailleurs appeler cette recherche une recherche action dont les acteurs, les premiers acteurs, les chercheurs étaient aussi les usagers en santé mentale?
Oui, mais j'ai participé en décembre 2013, je pense, à une conférence, un séminaire qui était organisé par la Maison des sciences sociales du handicap et le Comité français des personnes handicapées pour les affaires européennes, CFHE, sur l'application de la Convention de l'ONU des droits des personnes handicapées. Et était à ce séminaire représentants patentés, des autorisés, à la fois de la CNSA et de la FIRA, qui ont à la tribune fait savoir qu'ils souhaitaient financer des recherches sociologiques sur les difficultés d'application en France de cette convention des droits des personnes handicapées. Et donc je me suis dit, mais qui est le mieux placé, n'est-ce pas, pour pouvoir effectivement travailler, expliquer les difficultés rencontrées quotidiennement dans l'application des présupposés de cette convention de l'ONU, si ce n'est pas les personnes handicapées elles-mêmes, et puisque mon champ d'intervention, c'est le handicap psychique, effectivement, en particulier pour les personnes handicapées psychiques, ce problème se pose. Il se pose d'autant plus que, ces personnes la parole de ces personnes est disqualifiée souvent avant même qu'elles aient ouvert la bouche. En tout cas, on peut le penser et disons que voilà. Alors comment on pouvait faire avancer cette question de faire entendre la parole des personnes handicapées psychiques auprès des institutions en charge de la pleine citoyenneté et la vie autonome, de faciliter voilà pour ces personnes la pleine citoyenneté et la vie autonome dans notre société, comme le souhaite la convention une bonne application de la convention de l'ONU des droits des personnes handicapées. Eh bien, c'était faire cette recherche, c'était un bon moyen. Et plutôt qu'effectivement employer des chercheurs qui auraient été interrogés les personnes handicapées, et au risque effectivement de peut-être de squeezer leurs paroles. L'idée nous est venue, en lien d'ailleurs avec la Maison des sciences sociales du handicap, et en particulier Dominique Welsch, qui a amené cette idée dans nos discussions, dans l'élaboration du projet, les usagers peuvent être très bien mis en position de chercheurs, et d'ailleurs ça sera tout à fait intéressant de voir à ce moment-là comme critère, n'est-ce pas, aussi de faisabilité, quel sera l'accueil des institutionnels à le fait d'être interviewés par des usagers, des personnes handicapées psychiques elles-mêmes. Comment vont-ils accueillir cette démarche?
Alors, on a démarré en 2013, mais je vais faire un grand bond en avant parce que le temps passe. Mais le 20 juin, justement, le séminaire, c'est un séminaire de rendu, de présentation de tout ce qui a été fait pendant ces années de recherche, pendant lesquelles vous avez mis en avant la parole des personnes usagées en santé mentale. Et c'est ça que vous allez montrer le 20 juin, c'est-à-dire comment vous avez réussi, à partir de cette recherche, à finalement en sortir des préconisations de bonnes pratiques pour adapter le fonctionnement des institutions à ces usagers-là. Et c'est ça qui est assez remarquable dans ce type de recherche, c'est qu'il y a vraiment un rendu, des résultats concrets et tout de suite, on va dire, assimilables par ceux qui ont envie, en tout cas, de s'en servir.
Cette recherche a duré 2 ans, n'est-ce pas ? Donc on l'a commencé en septembre 2014 pour rendre les résultats finaux en novembre 2017. Et effectivement, c'est une des demandes de la FIRA que cette recherche débouche sur des objets concrets, puissent mettre au point des objets concrets facilitant justement la communication, puisque c'était le but quand même, de la communication entre les personnes handicapées et les institutionnels. Donc des guides de bonne pratique, un film grand public et cette conférence de restitution qui va donner à travers aussi des tables rondes les acteurs eux-mêmes, donc qui ont été interviewés une fois de plus, j'insiste là-dessus, ce sont les personnes handicapées qui ont été interviewées, des personnes en charge des institutionnels en charge du problème, et donc ils vont rendre compte de ce qu'ils ont vécu lors de cette journée du 20 juin. Je voulais quand même dire que les usagers en santé mentale ne sont pas des chercheurs en sciences sociales, et que donc cette démarche n'a pu se faire et réussir que dans le cadre d'un partenariat associant des sociologues qui étaient suffisamment avertis pour laisser la parole aux usagers dans la démarche, et donc qui ont animé des focus groups d'usagers qui ont été et qui ont élaboré des guides d'interview pour aller interviewer les personnes. Voilà comment c'est le dispositif, oui. Donc dont on va rendre compte au cours de cette journée du 20 juin. Alors, en donnant la parole, bien sûr, alors aussi aux financeurs dont vous parliez, n'est-ce pas, la FIRA, la CNSA, la Fondation de France et les...
Le CCAH et AG2R, je crois, et Humanis aussi qui ont participé.
C'est ça, oui.
Alors,
oui.
Prévenons tout de suite les auditeurs, la journée du 20 juin, elle était ouverte à tout le monde, mais c'est complet, c'est plein aujourd'hui, on ne peut plus inviter les auditeurs à s'y rendre. Par contre, où est-ce qu'ils pourront concrètement se renseigner et trouver les résultats? Vous parliez tout à l'heure des films, des matériaux, des guides de bonnes pratiques. Où est-ce que les auditeurs pourront trouver, consulter les résultats de la recherche?
Alors, les guides de bonne pratique étant demandés au départ par la FIRA en tant que financeur, je pense que la FIRA a tout à fait l'intention de mettre près ces guides de bonne pratique sur son site. Et nous allons proposer le 20 juin, après les avoir montrés, aux autres financeurs de les mettre également sur leur site, et on va voir si on peut également le faire par YouTube. Voilà, également, on va voir à ce moment-là, à partir du 20 juin, comment diffuser le plus largement possible ce film qui est en cours de réalisation, puisque toute l'expérience a été filmée, l'expérience a été filmée au fur et à mesure et remise à la CNSA et à la FIRA lors des remises de rapports, mais en même temps, on essaye de... Là, on va présenter le 20 juin un film grand public qui va montrer finalement comment les acteurs sont passés de la position d'adhérent de GEM, j'allais dire, à celle de chercheur. Voilà.
Eh bien, on a hâte de pouvoir regarder ce film en ligne, en tout cas une belle recherche qui va changer concrètement la vie des personnes en souffrance psychique. On l'espère, ça a été fait pour. Nous étions avec Claude Dutch de l'association Advocacy France. Et avant de vous quitter et de vous souhaiter un bon appétit, une petite annonce de la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap, pour ceux qui ne le savent pas encore. Eh bien, la FIRA a publié un guide méthodologique pour la réalisation de supports d'application. Une publication qui est en ligne sur le site fira.org dans la partie centre ressources, la partie dans laquelle vous pouvez trouver tout un tas d'informations sur la plupart des recherches menées en cours ou finies ou autres. Et donc c'est un guide qui aide à valoriser les résultats de la recherche auprès des acteurs de terrain. C'est très utile pour que la recherche ait un véritable impact sur la qualité de vie des personnes handicapées. Il faut absolument effectivement produire des supports de recherche qui répondent aux besoins et aux attentes des premiers concernés. Voilà, donc le guide méthodologique pour la réalisation de supports d'application est en ligne. Il définit précisément ce qu'est un support d'application et il précise aussi les étapes méthodologiques pour produire et diffuser cette information. N'hésitez pas, c'est sur fira.org. Et il est temps pour moi de vous souhaiter un bon week-end à l'écoute de Vivre FM et nous, on se retrouve en juin.